RMC Intégrale Euro.
Pierre Dorian.
C'est l'Intégrale Euro 2024 sur RMC. On est ensemble jusqu'à 1h30 du matin. 21h, coup d'envoi de France-Pays-Bas. Deuxième match pour les Bleus. Kylian Mbappé avec son masque et son nez cassé. A priori, il va démarrer sur le banc. On va beaucoup parler de l'équipe de France aujourd'hui avec Kevin Diaz, Roland Courbis et Walid Acherchour. Bonjour messieurs.
Salut Pierrot. Salut les amis. Salut à tous.
Un beau trio de passionnés, de dingues de foot là aujourd'hui. On va démarrer notre après-midi avec Slovaquie-Ukraine. C'est un match du groupe E. Et puis l'autre match de 18h, c'est le groupe de la France. Et ce sera Pologne-Autriche, Slovaquie-Ukraine. On va le vivre avec Arnaud Valadon. Salut Arnaud.
Salut Pierre, salut à tous.
On est quasiment prêt pour le coup d'envoi d'ici une minute ou deux. Hein.
Oui, et l'Ukraine battue de manière surprenante par la Roumanie 3-0 n'a plus vraiment le choix. Il faut s'imposer, voire même prendre un point, mais surtout s'imposer face à la Slovaquie qui a battu la Belgique. Et le sélectionneur ukrainien Sergueï Roubrov a vraiment tranché dans le vif. 4 changements, dont le gardien Andrei Lounine, coupable sur 2 des 3 buts encaissés face à la Roumanie. Il est sur le banc, c'est le jeune gardien de Benfica, Anatoly Trubin, qui est titularisé. Il y a également 3 autres changements dans la composition, dont le capitaine Stepanenko qui est sur le banc. C'est Yarmolenko qui fait son retour sur le côté droit. Côté slovaque, eh bien, on a aligné exactement le même 11 du côté du sélectionneur italien Francesco Calzona, cette équipe qui avait donc battu la Belgique 1-0. Et il faut s'intéresser à cette rencontre. Pourquoi ? Parce que si la France termine deuxième de son groupe, eh bien elle jouera contre le deuxième de ce groupe E. On retrouve la Slovénie, l'Ukraine et la Belgique. Donc il y aura peut-être un intérêt pour les Français, peut-être un futur adversaire en huitième de finale.
Alors tout ça, on est encore un peu loin pour se projeter sur les tableaux. Mais c'est vrai qu'a priori, il y a quand même un vrai intérêt à finir premier. Ça ouvrirait un tableau assez simple hein, sur le papier, bien sûr. Après, il faut le confirmer. Pour l'équipe de France, donc 21h, c'est France-Pays-Bas. Qu'attendez-vous des Bleus ce soir? On démarre par là tout de suite avec Loïc Braillet qui va nous donner une compo probable. Le jeu de l'équipe de France, Roland. Le jeu triste, pour ne pas utiliser les mots qui ont été utilisés en conférence de presse, notamment avec Antoine Griezmann. Ce jeu triste peut-il faire gagner les Bleus? Bon, alors ça a déjà été le cas dans le passé, mais j'ai l'impression que cette année, on est allé loin quand même hein, sur le jeu fermé de l'équipe de France.
Et moi, je constate beaucoup de points d'interrogation, à commencer par ce qu'on a vu hier. Dans les matchs d'hier, j'ai vu un match très intéressant.
Entre l'Espagne et l'Italie.
Espagne-Italie, mais j'ai vu aussi les Anglais très moyens.
On va en parler des Anglais et des Espagnols. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond en Angleterre à 16h30? Et puis l'Espagne est-elle désormais favorite? 15h30, avec ou sans Mbappé?
Ça, les questions comme ça, directes. Est-ce qu'ils sont favorites après un match?
Deux matchs.
Non, je plaisante.
De très beaux matchs. Honnêtement, c'est la meilleure équipe de ce début de compétition, l'Espagne, assez nettement.
Avec l'Allemagne.
Et puis, avec ou sans Mbappé, Thuram joue-t-il gros ce soir? Coup d'envoi de Slovaquie-Ukraine, Arnaud Valadon.
Donné par les Slovaques, emmené par leur capitaine, le Parisien Milan Skriniar. Donc une victoire et ce sera la qualification assurée pour les Slovaques. Tout de suite, un long dégagement pour s'approcher de la surface de réparation ukrainienne. 0-0 après 10 secondes de jouer.
On va vivre les premières minutes de cette rencontre pour voir comment ça se met en place. On a vu une équipe roumaine assez nettement supérieure à l'Ukraine hein,
surprenante
au premier match.
Efficace, ils n'ont pas besoin de 50 occasions pour mettre 3 buts.
Alors que l'Ukraine a quand même des noms assez intéressants sur le papier. Hein, Walid, il y a des joueurs techniques là-dedans.
Oui, même si bon, entre le papier et le terrain, on voit que sur certaines équipes, il y a une vraie différence. On l'a vu avec la Serbie hier aussi. Là, le coach a fait des choix. Il a intégré Yarmolenko, il a sorti Tsigankov de Girona et surtout le gardien, Lounine, qui a été catastrophique sur le premier match et qui là a été remplacé par Trubin. Donc on va voir s'ils vont rebondir, parce que c'est un match très très important pour eux, pour se relancer dans la qualification en huitième de finale.
Par contre, il ne blague pas l'entraîneur. Il a sorti le gardien du Real normal.
Après, une belle saison.
Son match, t'as le droit de ne pas être bon quand même dans un match de foot.
Son match, il est cata quand même.
Après, la question c'est, est-ce que son match est un match raté avec l'Ukraine ou est-ce que sa saison avec le Real était au-dessus de son niveau réel?
Non, mais c'est un match raté. Quand même, il a certes fait un match raté. Maintenant,
pour beaucoup au pays, Trubin est bien meilleur.
Ouais, après, le gardien du Benfica, il n'a pas fait une saison de dingue non plus. Hein.
Oui.
Et après, juste un mot sur la Slovaquie. La victoire contre la Belgique, pour vous, c'était un hold-up ou pas?
Un hold-up, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont maximisé leur temps fort et leur temps faible. Faut rappeler que
c'est un hold-up.
Faut rappeler que la Belgique a quand même deux buts hors-jeu refusés d'un cheveu. et que tu as quand même des grosses occasions de Lukaku qui ont été vendangées. Donc ils ont quand même eu pas mal de réussite sur le résultat.
Les Slovaques, les premiers à l'attaque, Arnaud Valadon.
Tout est parti d'une belle relance de Milan Skriniar. Du gauche, lui, évolue axe gauche dans cette défense centrale pour lancer Araslin, mais qui n'a pas pu centrer. Ballon finalement perdu dans un deuxième temps récupéré par les Ukrainiens. Mais on sent déjà les Slovaques vouloir prendre les initiatives, mettre le pied sur le ballon. 0-0, 2 minutes 13 de jeu.
Il y a un joueur dont j'attends beaucoup côté ukrainien, c'est Mudryk. Hein, qui sur le premier match a buté sur la défense roumaine à plusieurs reprises, qui s'est un peu regardé jouer. Là, il va falloir quand même prendre son destin en main et ramener son pays en huitième de finale d'Euro quand même. Vu
joueur son prix à Chelsea, par Chelsea plus de 100 millions
cote,
d'euros.
Et sa cote, il doit tirer le collectif vers le haut.
C'est quoi son profil? C'est un ailier très rapide.
Dynamiteur, percussion. Mais
censé
après,
être assez technique aussi. Hein.
Raphaël Léao.
Raphaël Léao,
ouais, profil parce qu'il va très très vite. Il va très très vite, des fois il peut un peu oublier le ballon, mais après c'est un beau joueur de foot hein, quand même. Ouais. Maintenant, encore une fois, je ne comprends pas tous ces joueurs qui sont partis à Chelsea.
Après Chelsea, c'est un grand grand bazar quand même. Hein.
Oui, c'est un grand bordel même, je pense.
C'est peut-être un des clubs les plus compliqués actuellement.
Ça ressemble à un élevage.
Allez, les premières minutes de ce Slovaquie-Ukraine, Arnaud.
0-0, 3 minutes de jouer. Skriniar qui passe la balle à son compère en défense centrale, Denis Vavro. On essaie d'être percutant sur le côté droit avec Pekarik, le latéral droit presque vétéran. Hein. 36 ans pour lui, le joueur du Hertha Berlin. On essaie avec sur le côté droit la combinaison avec Kuka, le milieu de terrain. On a obtenu une touche près du poteau de corner dans le camp ukrainien pour les Slovaques qui sont quand même dans l'intensité, dans les courses, un cran dessus des Ukrainiens. Dans ce début de partie, on sent aussi la confiance. Ça a été un petit peu tout le discours autour de Sergueï Rebrov et de cette sélection ukrainienne qui a pris vraiment un coup sur la tête après cette défaite implacable face à la Roumanie lors du premier match de poule. Et on veut quelque part s'éviter un match de la mort contre les Belges mercredi prochain, qui sera le prochain adversaire de ces Ukrainiens, sous peine évidemment de prendre la porte de manière prématurée. Les Slovaques qui sont en place, sont en défense, les Ukrainiens qui essayent de relancer derrière, où ils ont eu énormément de déchets techniques. Vous parliez de Mudryk aussi, Soudakov, le jeune meneur de jeu du Shakhtar aussi a été un peu en dessous. Ils n'ont pas trouvé Dovbik, l'attaquant titulaire, meilleur buteur de Liga à Gérone. C'est vraiment toute une équipe offensivement qui a montré des lacunes, et on attend évidemment de voir un peu ça corrigé pour les hommes de Sergueï Rebrov face à la Slovaquie ici à Düsseldorf. 4 minutes 20 de jouer, peut-être ce long ballon justement pour Yarmolenko, beaucoup d'expérience sur le côté droit, il est en position de hors-jeu. 4 minutes 30 de jouer, 0-0.
On suit donc ce match entre la Slovaquie et l'Ukraine dans le groupe E. L'autre match du groupe, ce sera Belgique-Roumanie, mais c'est demain soir à 21h. Hein, et ce sera bien sûr là aussi à suivre sur RMC. Tout de suite, on se plonge dans le match de l'équipe de France ce soir face aux Pays-Bas.
C'est fini, c'est terminé. L'équipe de France passe par un petit trou de souris en s'imposant 1-0.
On avait une équipe évidemment sur le papier qui était plus faible.
Tout le monde souffle, on défend tous ensemble. Même les remplaçants qui sont rentrés ont fait du bien de suite. C'est ça qui va faire la différence jusqu'à la fin.
Didier Deschamps a décidé de ne pas titulariser Kylian Mbappé. Aurélien Tchouaméni devrait revenir au milieu pour accompagner N'Golo Kanté.
Il a pu retrouver toutes ses capacités footballistiques et athlétiques.
Où il est capable de jouer à pur jeu poste.
Ah non, celui-là, il faut le gagner. Là, c'est la qualif à aller chercher, mais on va gagner.
Il faut rappeler aussi que le gouda, c'est pas du fromage. Très important.
C'est plus une pression, là. Je suis déjà au pilotique. Voilà.
Alors, ce soir, France-Pays-Bas à 21h. Qu'attendez-vous de l'équipe de France? Les Bleus qui ont gagné leur premier match 1-0 face à l'Autriche. Franchement, on s'est pas régalé. C'était pas une équipe de France impressionnante face à l'Autriche. Alors, c'est vrai qu'on se méfiait de l'Autriche. Hein. Équipe capable de faire un gros pressing, qui était sur une très très bonne dynamique. Ceci étant, on reste sur notre faim. Et puis, bien sûr, il y a l'incertitude Kylian Mbappé. Hier, Didier Deschamps a laissé entendre qu'il était prêt. A priori, il devrait pas débuter. On va faire le point avec Loïc Braillet. Salut Loïc.
Salut Pierrot, salut tout le monde.
Alors, comment va jouer l'équipe de France ce soir?
Alors, ce qui est sûr, c'est que le 11 de départ ne sera pas le même que lors du premier match. Kylian Mbappé, même s'il s'est testé hier avec un des masques qu'il a, parce qu'il en a plusieurs, ne devrait pas débuter. Et forcément, chacun devra s'adapter à cette absence importante. Écoutez Antoine Griezmann.
Mais je pense que ça serait toute l'équipe qui devrait s'adapter. Je ne sais pas du tout s'il va jouer ou non, mais qui est l'un des meilleurs joueurs du monde ou dans ton équipe sur le terrain, ça change énormément. Donc on verra ce qu'il en est, mais dans le foot, il faut toujours s'adapter à chaque match. Et c'est ça que j'aime. Donc peu importe demain, quel choix tactique, il faudra s'adapter pour tout le monde. Et c'est ce qui doit faire notre force aussi, qu'à chaque adversaire, on puisse trouver les points faibles et être costaud comme contre l'Autriche. Vous savez que ça allait être un match physique et on a répondu présent.
Et visiblement, Didier Deschamps a bien étudié tactiquement les options pour ce deuxième match très important pour les Bleus face aux Pays-Bas. Un joueur qui était convalescent et qui a un certain statut en bleu devrait faire son retour. Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain. Didier Deschamps.
Aurélien, de par ce qu'il a réalisé, la cicatrisation est bonne. C'était prévu qu'il puisse être disponible. Après, statut, oui, ben, forcément. Au milieu de terrain, ils peuvent être tous titulaires. Mais ils ne pourront pas tous jouer. Il y aura des relais à prendre aussi. Mais Aurélien est en meilleure condition.
Voilà, du coup, le 11 de départ devrait être le suivant. Maignan dans les buts, pas de souci. Il a été énorme au premier match. La même défense que face à l'Autriche, avec donc Théo Hernandez côté gauche, Koundé côté droit, Charnière, Saliba ou Upamecano. Aucun souci pour le joueur d'Arsenal d'être plutôt axe gauche plutôt qu'axe droit, ses habitudes en club. En revanche, donc, au milieu de terrain, ça va changer avec le retour de Tchouaméni aux côtés d'N'Golo Kanté. À gauche, on retrouvera Adrien Rabiot. Et donc à droite, Ousmane Dembélé. Devant, Griezmann, qui devrait être légèrement en retrait de la pointe, qui sera Marcus Thuram. Il y aura évidemment beaucoup d'autres options possibles sur le banc en fonction de la tournure du match, avec bien sûr la possibilité de faire rentrer Mbappé avec son masque si besoin.
Juste, si on fait rentrer Mbappé en fin de match, qui en fait les frais? C'est Tchouaméni, on rejoue comme contre l'Autriche ou c'est Rabiot ou c'est quoi?
Ça dépendra si tu changes de joueur ou si tu changes en même temps d'organisation. Là, ce que je regarde, si par exemple c'est la vérité que Mbappé ne démarre pas.
Toi, tu as un doute, Roland, je te connais.
C'est pas que j'ai un doute, c'est que je pense que tout simplement, il pourrait démarrer et que là, on fait preuve d'une grosse prudence pour pas le faire démarrer. Mais suivant ce qui se passe à la 60e minute, ben, bizarrement, il fera les 35 dernières minutes. Alors maintenant, ce que je regarde, c'est l'organisation. J'essaie un petit peu de réfléchir, par moment, ça m'arrive de réfléchir à la place de Didier. Et donc, j'essaie de comprendre un petit peu le changement d'organisation de l'équipe de France. On regarde un petit peu les duos. Duo côté droit, ben Koundé et Dembélé. Duo côté gauche, on retrouve 5 ou 6 ans après le Matuidi. Donc, cette organisation avec Rabiot. Chose qui avait disparu, puisqu'on était les premiers à dire que Didier, aujourd'hui, joue avec 3 attaquants plus Griezmann. Ben, aujourd'hui, ça ne serait pas le cas. Donc maintenant, j'attends avec impatience de voir un petit peu ce qui va se passer. Mais j'ai beaucoup de points d'interrogation et peut-être même beaucoup trop de points d'interrogation.
Alors, qu'attendez-vous des Bleus ce soir? Kevin Chaud donne la parole. D'abord, un point sur Slovaquie-Ukraine avec un match qui commence à s'emballer, Arnaud.
Le danger se précise sur la cage ukrainienne avec cette frappe de Lucas Saraslin, le milieu offensif gauche du Sparta de Prague, dans un angle un petit peu fermé dans la surface de réparation. Au premier poteau, c'est renvoyé par Troubine qui a remplacé. Ouh. Attention, peut-être avec l'ouverture du score, le poteau après une erreur défensive de Zabardi côté ukrainien. On était vraiment tout proche de l'ouverture du score slovaque. Vraiment le danger qui se rapproche pour les Ukrainiens. Et Troubine, vraiment, qui il était sauvé par son poteau. Il y a un défenseur, Zabardi, qui a raté son dégagement puisqu'il a voulu dégager du pied. C'est allé sur sa poitrine, c'est allé au deuxième poteau. Et Bozenik, l'attaquant de Boavista, qui était vigilant. Ouf, les Ukrainiens qui peuvent clairement souffler, mais attention, 0-0.
Sur le côté de Yarmolenko, là, c'est porte ouverte.
C'est boulevard.
C'est boulevard depuis le début du match.
Ouais, ça passe très facilement à gauche. On va vérifier tout ça, mais oui, il y a une petite incertitude sur le poteau ou l'arrêt. Vous n'êtes pas d'accord? Arnaud, il a vu un poteau. Walid, il a vu un arrêt. Mais en tout cas, c'était vraiment très très chaud. 0-0, mais la première grosse occasion, elle est slovaque. Qu'est-ce que tu attends des Bleus ce soir, toi, Kevin? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Qu'est-ce qu'il faut faire avec cette incertitude Mbappé?
Ah, déjà, il y a un truc quand même qui me surprend, c'est cette histoire de jouer avec 4 milieux de terrain et Rabiot qui jouerait plutôt milieu gauche, un peu excentré, mais qui va surtout fermer un couloir. Honnêtement, je vois pas du tout l'intérêt de revenir, comme a dit coach, 4-5 ans en arrière, sachant que tu as déjà Antoine Griezmann dans cette équipe. t'as déjà Antoine Griezmann, donc autant mettre Griezmann pour fermer le couloir droit, donc en tant qu'ailier droit, et lui laisser la liberté de venir proche d'un avant-centre, et à gauche mettre un vrai ailier gauche. Je comprends pas du tout pourquoi là il va nous inventer un système où Adrien Rabiot serait là pour fermer le couloir.
Plus que tu l'as, j'ai l'impression que, et je le vois gros comme une maison, si Barcola ne profite pas de cette possibilité là avec l'absence possible, je dis pas certaine, de Kylian, et que l'idée de Didier c'est Rabiot plutôt que Barcola, mais pourquoi pas, mais bon, mais on regardera, non, mais là, et on dira ce qu'on en passe.
Honnêtement, on va pas se cacher, ça c'est le Didier Deschamps qu'on aime moins footballistiquement, c'est-à-dire celui qui, tout ça parce qu'il joue contre les Pays-Bas, va tout de suite choisir une option, en tout cas choisirait une option défensive.
Après, lui, il va te dire que c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire que Matuidi, en 2018...
On est très équilibré, là. Là, on va pas tomber. Hein.
Peut-être que Griezmann sera libre. Peut-être que Griezmann va aller à gauche, à droite.
De toute façon, c'est simple. La dernière fois qu'on a vu cette composition d'équipe, on l'a vu contre l'Allemagne en septembre sans Mbappé parce qu'il était blessé. Il avait mis Rabiot côté gauche, Coman à droite. Donc, il avait mis ses fameux 4 milieux de terrain avec Griezmann, Camavinga et à l'époque c'était Tchouaméni, ça avait été une catastrophe. Ouais. Donc dans le jeu
il faut pas faire la même erreur qu'a fait l'Italie hier contre l'Espagne. C'est-à-dire que l'Espagne ou même les Pays-Bas qui sont pas très loin de l'Espagne techniquement je parle, hein. Mais si tu les laisses jouer, c'est là où tu es en difficulté. Surtout si tu n'as pas Kylian Mbappé pour les couper.
Je suis pas sûr que le plan ce soit de les laisser jouer, de les attendre quand même.
Non mais d'accord, mais
l'équipe de France a pas trop ce profil là non plus. Tu vois, c'est plutôt casser le jeu adverse.
Kier, ils sont tout le temps en train d'attendre. Pourquoi ils vont pas attendre ?
Oui, mais pas à se recroqueviller sur ses 20 mètres.
Ils pressent jamais. Je te le dis, ils ne pressent jamais.
C'est pas une question de presser. C'est d'empêcher l'adversaire de jouer.
Oui, mais ça c'est fini. On est dans un football moderne. Oui, il va nous dire que en finale de Coupe du Monde, il a eu 30 bonnes minutes. Ils ont rien fait. Ils se sont fait rouler dessus par l'Argentine parce qu'ils les ont laissés jouer. C'est tout. Tu laisses jouer ce genre d'équipe aujourd'hui à ce niveau, tu te fais rouler dessus. Ils se sont fait rouler dessus par l'Allemagne à Lyon.
Donc qu'est-ce que t'attends ce soir en fait du coup? T'attends rien.
Mais non, il faut juste que l'équipe de France elle joue. Il faut qu'elle joue. Ou alors elle va encore attendre un coup de pied arrêté, un exploit individuel. Mais il y a un moment, tu joues pas contre la grande équipe des Pays-Bas là. Tu vas jouer avec 5 joueurs défensifs au milieu de terrain contre les 4 et demi contre l'équipe des Pays-Bas de 2024. Non, mais non, là
c'est valide. Moi ce que je comprends pas, c'est que sur le dernier match contre les Pays-Bas là-bas, on avait été très bon avec Mbappé qui avait mis le doublé. On avait fait un 4-3-3 classique avec Griezmann, Tchouaméni, Rabiot. Et devant, ça avait été Colomboigny au poste de numéro 9, Coman et Mbappé. Donc purs attaquants. Pourquoi aujourd'hui, comme l'a dit Roland, on ne peut pas faire jouer Barcola? Sauf que moi, comment je lis? Comment moi je lis cette composition? C'est qu'il veut bloquer Dumfries et Frimpong sur le côté fort pour aider Théo Hernandez et pour que Théo Hernandez ait une certaine liberté. Mais le problème c'est qu'on n'est même pas sûr que Dumfries joue parce qu'il a fait un premier match très moyen et qu'aux Pays-Bas on dit qu'il va avoir du changement dans cette composition d'équipe. Et la deuxième des choses, j'ai l'impression qu'il veut incorporer Tchouaméni parce que Tchouaméni était titulaire en puissance avant que Kanté arrive, et qu'aujourd'hui, il ne veut pas faire de choix, parce que Rabiot a fait un très bon match,
Kanté
a fait
un très bon match. Si tu as Mbappé, la question ne se pose pas.
Oui, mais enfin...
Donc après, là, il aurait fait un choix.
Ah, bien sûr, je te parle de après que Mbappé soit diminué. Et puis surtout, il n'a pas envie de lancer Barcola dans le grand bain sur un premier match contre les Pays-Bas. C'est comme ça que moi, je vois le truc.
Loïc, précision.
Oui, non, je rejoins pas mal ce que vient de dire Walid, le cas Tchouaméni est un vrai sujet.
Ben oui.
Parce que son retour en forme, le fait qu'il est qu'il se montre vraiment avec beaucoup d'envie pour revenir, sans mettre la moindre pression que ce soit, bien sûr, mais c'est quand même un cadre de l'équipe de France, champion d'Europe avec le Real Madrid. Il a un statut au sein de cette sélection. Voilà. Et effectivement, pour Deschamps, c'est un petit problème de voir autant de bons joueurs au milieu, en tout cas après ce premier match,
par
Rabiot et N'Golo Kanté, qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau-là. Dans cette position de titulaire lorsqu'il a fait sa liste. Et donc, effectivement, pour Didier Deschamps, la problématique d'incorporer Tchouaméni dans son organisation en gardant les deux autres titulaires, c'est forcément une réflexion qu'il a eue. Il a choisi cette option. Je ne serais pas surpris quand même de le voir peut-être évoluer assez vite en termes de match.
On continue la discussion tout de suite, mais on va aller voir le coup franc pour les Slovaques. Là, c'est un coup franc très dangereux à l'entrée de la surface de réparation ukrainienne, Arnaud Valadon.
0-0, la 16e, et Walid avait bien vu. C'était un arrêt de Troubine tout à l'heure et pas le poteau sur cette frappe de Schrans, le buteur contre la Belgique. Là, c'est Lobotka. C'est pas le milieu le plus fâchi, mais quel bel abattage de la part de Stanislav Lobotka.
Il a fait un premier match, lui, incroyable.
Et il continue sur de bonnes bases, ce coup franc légèrement à droite, à l'extérieur de la surface de réparation, évidemment. C'est frappé et c'est enroulé magnifiquement de la part de David Anko, le latéral gauche. On a utilisé son pied gauche et c'est repoussé. C'est pas terminé puisqu'il y aura une touche à hauteur de la surface de réparation. Mais les Slovaques qui dominent vraiment ce premier quart d'heure, 17 minutes de jouer, 0-0.
0-0 avec plusieurs tirs cadrés déjà côté slovaque. Merci Arnaud, on revient très vite. On est sur la compo de l'équipe de France. Tu voulais ajouter quoi, Walid? Non, Roland, non, sur Tchouaméni.
Je voulais simplement en même temps vous demander votre avis.
Ah ben, tiens, et ça fait but. Et voilà les Slovaques qui ouvrent le score. Et c'est Ivan Schrantz qui avait marqué contre la Belgique, qui débloque une nouvelle fois la situation pour la Slovaquie. C'est mérité effectivement, la 17ème. C'est parti de cette touche avec une combinaison dans le couloir gauche avec le centre pour Araslin au deuxième poteau. Un problème aussi de marquage à côté ukrainien parce que Schrantz il a pu placer sa tête de manière assez tranquille avec un rebond et c'est allé tomber Troubine. Fort logiquement, la Slovaquie qui ouvre le score face à l'Ukraine, un but à zéro.
Il n'y a pas photo sur le début de match.
Ouais, 1-0. Alors, les Ukrainiens ont eu des contres intéressants, mais ils ont très mal joué, notamment dans la transmission. C'est catastrophique, ouais, Walid.
Mais dans les intentions de jeu, c'est les Slovaques depuis le début du match. Troubine, c'était son quatrième arrêt en 17 minutes.
Et puis là, il a une tête à 6 mètres à sortir, il ne la sort pas.
Moi, je trouve que il est quand même bien placé. Il doit la sortir cette tête-là.
Après, Zinchenko, il se fait totalement manger.
Zinchenko, le duel, il est raté. Il est complètement à l'ouest. Tous les mouvements viennent du côté de Yarmolenko depuis tout à l'heure.
C'est une équipe qui tourne par rond là pour l'instant pour l'Ukraine. Ouais. 1-0 pour la Slovaquie, donc 18 minutes. On est sur l'équipe de France. Qu'attendez-vous des Bleus ce soir?
Vas-y.
Non, je te donnais mon avis en ce qui concerne Tchouaméni. Chacun sa vision des choses. Donc je viens d'entendre aussi que la réflexion de Didier, c'est de mettre Tchouaméni parce que Tchouaméni est indispensable au Real. Mais
là, on est plus dans une interprétation que dans une information, quand même, les gars.
Oui,
hein.
Parce que bon, Tchouaméni, son absence côté Real, je ne sais même pas si
elle a pas été. Il faisait surtout partie des cadres de l'équipe de France.
2022, surtout. C'est pour ça que Deschamps veut le remettre.
Parce qu'en fait, ici, de l'arrivée de N'Golo Kanté, c'était lui le titulaire sur les derniers rassemblements et même à la dernière Coupe du Monde. Et que le fait qu'il soit diminué, voire blessé sur le premier match, c'était plutôt logique de le voir sur le banc. Mais que là, ça peut devenir un souci par rapport à ce qu'il peut générer dans le groupe. En termes de leader. Et moi, après le match contre l'Autriche, Rabiot et Kanté, ils sont insortables. Griezmann, de par son profil et le fait qu'il soit créateur beaucoup plus haut, il est insortable aussi. Et moi, je pense que c'est un mix. C'est mon avis, hein, peut-être que je me trompe, mais c'est un mix en se disant bon, je vais pas mettre Barcola parce que Barcola, trop frêle, trop léger pour être titulaire. Je vais ressortir mon Rabiot.
Pas la mettre tout de suite.
Voilà, pas titulaire. Je vais ressortir mon petit Rabiot à gauche, là, qui va permettre de gêner avec nos deux lignes de 4, parce que sur le premier match, Pierrot, c'était ça, hein. C'est Griezmann, Mbappé un peu plus haut et une ligne de 4, Thuram qui venait à gauche, Rabiot et Kanté avec Dembélé. Là, on va la retrouver, on va avoir Rabiot à gauche, Tchouaméni, Kanté et Dembélé avec Griezmann derrière Thuram.
Tchouaméni ou pas Tchouaméni, Barcola ou pas Barcola, on est bien d'accord au moins sur une chose, c'est qu'on change pas seulement quelques joueurs dans ce deuxième match, on change aussi d'organisation. On passe dans un 4-3 ou un 4-2-3-1 à un 4-4-2, et dans le 4-4-2, vous êtes en train de m'expliquer, pas vous, hein, ce que j'entends à droite à gauche, que les deux attaquants de notre équipe de France en 4-4-2, c'est Thuram et Griezmann.
Oui, c'est ça. Sauf que.
Eh ben, permets-moi quand même d'être surpris.
Mais moi, je suis d'accord avec toi. Moi, pour moi, on ne doit pas changer.
Mais après, là, tu peux faire 0-0.
Moi, je suis là pour t'expliquer.
C'est exactement ce que j'allais dire, coach. J'allais dire que le problème, c'est que là, on est en train de nous dire l'équipe de France va vouloir possiblement, en tout cas selon ce que disait Walid, fermer le côté droit ou le côté gauche des Pays-Bas, qui est assez fort. Mais moi, j'entends aux Pays-Bas que les Pays-Bas vont essayer de fermer les Français qui sont, aussi assez forts. Ouais. Donc, le 0-0, coach.
Alors, je vous rappelle quand même.
On va le jouer.
Mais je vous rappelle quand même les enjeux.
Qui peut convenir aux deux équipes.
Alors, justement, je vais vous rappeler les enjeux parce que la France est qualifiée à coup sûr avec une victoire et elle peut même avoir une première place assurée en cas de victoire si la Pologne ne bat pas l'Autriche cet après-midi à 18h. Donc ça vaut le coup quand même d'aller chercher la victoire ce
bien
soir.
Sûr, hein. mais tu peux te dire qu'un match nul avec le retour d'Mbappé contre la Pologne par exemple, ça peut être aussi 7 points en 3
pourquoi
matchs.
Pas.
Et tu vois, donc tu peux avoir ce... Moi je pense que Deschamps peut être dans ce raisonnement-là.
Le match nul ce soir déjà, t'es qualifié.
Oui, voilà, oui, t'es qualifié.
On va se mettre dans l'ambiance de ce match parce que vous le savez, à Leipzig, on va affronter une des équipes qui a les supporters les plus fervent et qui se déplacent en grand nombre pour suivre leur équipe nationale. C'est Valentin Jamin qui est au milieu des oranges à Leipzig. Salut Valentin.
Ouais, salut à toutes et à tous, c'est une marée orange. C'est littéralement une marée orange. Leipzig c'est orange, il y a des maillots partout. Là je suis entouré devant un bar
des
supporters néerlandais des Pays-Bas. Ouais, il y a les drapeaux, il y a des robes, il y a des perruques, il y a des fumigènes, il y a les chants, il y a des bières qui arrivent par 6 devant moi. C'est depuis ce matin, il y a des chants dans tous les sens. On dit qu'il pourrait être jusqu'à 40 000 en ville, les fans néerlandais, alors que seulement la moitié aurait des tickets pour le match. Donc ils viennent seulement faire la fête. C'est un petit peu spécial Pays-Bas, ces genres d'événements, de rassemblements. Écoutez ce que nous expliquent par exemple Alex et Mike, ils sont néerlandais.
C'est la culture des gens de notre pays. Ils veulent profiter, s'amuser tous ensemble et c'est toujours incroyable. On ne se rend pas compte, ça fait partie de nous de faire la plus grosse fête possible. Le résultat est important, mais on sait qu'on n'est pas favori. Donc les gens se disent, faisons la plus grosse fête. Plus on boit de bière, plus on fait de bruit, mieux c'est. Et tout le monde s'éclate.
Voilà, vous entendez derrière moi peut-être les chants qui se multiplient. Il y a quelques petites grappes de Français, mais pour l'instant, on est clairement en train de perdre la bataille de l'ambiance en ville. On prévoit un petit peu d'orage, un petit peu de pluie, mais je pense que ça ne va pas faire terme aux Néerlandais qui sont hyper chauds.
Ça va pas les arrêter, je te rassure.
De toute façon, le match, faut pas le faire. Hein. Quelle que soit la nation en face, peut-être les Anglais à la limite, mais chaque fois qu'il y a un match des Pays-Bas dans un pays étranger, c'est une marée orange partout.
Non mais tu sais Pierre, souvent on me dit « Ah mais toi t'en fais beaucoup avec les pays », mais on se rend pas compte ce qu'est le foot en fait. On ne se rend pas compte ce qu'est le foot dans ce pays. C'est-à-dire que c'est comme le Brésil, c'est comme l'Italie, c'est-à-dire que de la grand-mère jusqu'à l'arrière-petit-fils ou l'arrière-petite-fille, tout le monde suit la sélection néerlandaise. Et en fait, le 30 avril, c'est la fête de la reine aux Pays-Bas. Et donc, en fait, si vous passez avec un drone au-dessus des Pays-Bas, le pays est orange. Ah. Les gens sont dans la rue. Et donc, en fait, cette tradition-là, elle n'est pas que sur les matchs des Pays-Bas. Elle est sur tous les événements, puisque le orange, c'est quand même... les gens.
T'as passé combien de saisons là-bas, déjà, rappelle-nous ?
Sept saisons. Le orange, c'est pas la couleur du pays, c'est la couleur de la monarchie des Pays-Bas.
Alors, donc, on est sur l'équipe de France. Qu'attendez-vous des Bleus ce soir ? Avant d'accueillir Tariq au 32-16, le point sur le match entre la Slovaquie et l'Ukraine dans le groupe E, Arnaud Valade.
La 24e, 1-0 pour la Slovaquie face à l'Ukraine. On a vu une petite réaction ukrainienne. Mais alors la frappe de Mudryk au 25 mètres, elle s'est envolée. Elle est allée dans l'anneau supérieur du stade de Düsseldorf.
Arnaud, c'est pas possible. Le contre qu'il a, où il est face au jeu.
Ils sont 3 contre 3 en plus.
Il a plusieurs possibilités. Aller fixer, soit donner le ballon.
Il y a des appels des deux côtés.
Un coéquipier, il te met une frappe qui part dans le centre-ville.
Ouais, ça va pas l'Ukraine.
Non, mais c'est pas possible. Hein.
Alors, on reste bien sûr très attentif à cette rencontre. 24 minutes, 1-0 pour la Slovaquie. Qu'attendez-vous des Bleus ce soir face aux Pays-Bas ? Tariq. Bonjour Tariq.
Bonjour tout le monde.
Tariq, tu as entendu la discussion tactique sur l'équipe de France, sur les choix de Didier Deschamps. Qu'est-ce que tu attends, toi, ce soir ?
Moi, j'attends de voir une équipe de France qui se crée des occasions, qui se crée des occasions par le jeu. Et d'après ce qui ressort de la compo que vous donnez avec un Rabiot côté gauche, moi, j'arrive pas trop à comprendre les choix de Didier Deschamps. Comme sur le premier match, le fait de laisser un Thuram sur la gauche, j'arrive pas trop à comprendre.
Bah là, il sera dans l'axe. Hein.
Ouais, il sera dans l'axe, mais même par rapport à ça, moi. C'est l'une des équipes de France, en fait, où j'ai l'impression, depuis toutes ces dernières compétitions où on a pas mal performé, c'est l'équipe de France, pour moi, où il y a le plus d'incertitudes. T'as personne à ressortir du lot, mis à part 2-3 joueurs, mis à part là, Kanté qui nous a impressionné, Rabiot. Mais mis à part ça, je vais même t'inclure Kylian Mbappé par rapport à son état de forme et la fin de saison qu'il a eue. Moi, j'ai du mal avec les choix de Didier Deschamps.
En fait,
Deschamps.
Moi, ce que je comprends pas, Tariq, surtout, c'est que sur le cas de Tchouaméni qu'on a évoqué avec Loïc, remets ton milieu de terrain qui a fonctionné contre l'Autriche, incorpore un ailier de plus, c'est-à-dire soit Kingsley Coman, soit Barcola. Et je pense qu'en termes de forme, aujourd'hui, c'est Barcola qui correspond le mieux à ce type de match. Et puis, va prendre tes 6 points, sois protagoniste contre les Pays-Bas. Et même si tu n'es pas protagoniste, laisse-leur le ballon, mais mets des joueurs qui sont capables de demander le ballon dans l'espace pour leur faire très très mal dans le dos. Fais tes 6 points, et sur le dernier match, tu vas intégrer Tchouaméni, et tu vas faire une petite revue d'effectifs sympathique contre la Pologne. Et ce sera très très bien. Là, je ne comprends pas, parce qu'on en a parlé avec Roland tout à l'heure, tactiquement, on a oublié de l'évoquer, ce point-là. C'est que cette fameuse double animation qu'on a vue sur le premier match entre Thuram et Mbappé, où à un moment donné Mbappé il est dans l'axe, à un moment donné c'est Thuram qui est dans l'axe, et vice versa, là tu vas plus l'avoir en fait avec Rabiot et Thuram. Donc là tu pars sur une autre animation très très différente. Et le seul point positif de cette compo, c'est qu'il va falloir que Griezmann hausse son niveau de jeu, parce que là
de
en fait,
toute façon la clé de l'équipe de France en fait, elle est là,
c'était un système pour Mbappé sur le premier match,
c'est lui,
là ça va être un système pour Griezmann et pour Marcus Thuram aussi, parce que quand on a critiqué Marcus Thuram sur le premier match, on a dit oui mais il a fait 12 km, il a pas joué à son poste. Là pour Thuram, la même chose, au poste de numéro 9 il va devoir répondre présent.
Alors on débattra tout à l'heure plus spécifiquement de Thuram et de l'animation offensive, donc avec ou sans Mbappé, Thuram joue-t-il gros à 17h? Merci Tariq. On va parler de l'Espagne qui a remporté son deuxième match de manière brillante hier face à l'Italie dans un instant. D'abord, le match en course, c'est Slovaquie-Ukraine avec Arnaud Valadon.
1-0 pour la Slovaquie, on joue depuis 28 minutes et ce qu'on avait vu sur le côté droit ukrainien se confirme. C'est un bouillon total que sont en train de prendre Yarmolenko et Timchit, parce que Anko, le latéral gauche slovaque, et Araslin, l'ailier gauche, sont en train tout simplement de dominer comme pas possible ce couloir ukrainien. Attention peut-être avec Modric, le ballon pour Dovbyk qui est dans la surface de réparation, qui va accrocher, qui va revenir. Oh, quel retour slovaque là-dessus. C'est pas Skriniar, je suis pas sûr que ça soit Skriniar qui s'est jeté là-dessus.
Non, c'est Skriniar qui la prend.
C'est Skriniar qui se fait petit peu crocheter, ça c'est pas possible. Et c'est Pekarik, le latéral droit, qui s'est jeté, corner à suivre pour les Ukrainiens. Tacle,
hein. Parce que Dovbyk, l'enchaînement dans la
technique
dans
la surface magnifique, mais beau, ouais. Derrière il manquait la finition, donc 1-0 pour les Slovaques et 28 minutes au chrono. L'Espagne, dans un instant, l'Espagne est-elle désormais la favorite de 7 euros? A tout de suite, vous êtes sur RMC dans l'intégrale Euro 2024.
RMC Intégrale Euro.
Pierre Dorian.
Intégrale Euro 2024, France-Pays-Bas 21h en direct de Grenoble dès 18h. On est ensemble jusqu'à 1h30 du matin. Pourquoi Grenoble? Chez Olivier Giroud. S'il vous plaît, messieurs, dames, vous vivez les matchs des Bleus chez les joueurs de l'équipe de France pendant 7 Euro 2024. 21h pour le coup d'envoi, mais des débats et des infos toute l'après-midi, bien sûr. Avant de parler de l'Espagne, la réaction ukrainienne lors de ce Slovaquie-Ukraine, Arnaud Valadon.
La 30e, 1-0 pour la Slovaquie, et juste après cette incursion de Dovbyk dans la surface de réparation ukrainienne, c'est Mudryk qui a vu son centre dévié. C'est parti au deuxième poteau pour Yarmolenko, qui était trop juste pour abattre ce ballon. Les Ukrainiens qui viennent d'enchaîner deux occasions en l'espace de 3 minutes, mais ils sont menés 1-0 alors qu'on arrive près de la demi-heure tout pile.
Et donc hier, face à l'Italie, l'Espagne a impressionné l'Europe du football.
Pedri dans l'axe avec Fabián Ruiz, la frappe pourquoi pas du joueur du PSG, le festival, oh le but, oh Fabián Ruiz qui régale, la frappe pied gauche de la part du joueur du Paris Saint-Germain. C'est centré avec Carvajal. Oh le but de Dani Carvajal, buteur inattendu. 3-0 pour les Espagnols juste avant la mi-temps. Victoire logique, méritée de l'Espagne. Un but à zéro, but contre Socan de Calafiori. L'Espagne première de ce groupe B. L'Espagne mérite largement de s'imposer ce soir à Gelsenkirchen.
Alors démonstration face à la Croatie, puis démonstration face à l'Italie, même si le score n'est pas le même, parce que les Italiens ont mieux défendu, et c'était pas difficile, que les Croates.
Surtout Donnarumma a mieux défendu.
Donnarumma a fait beaucoup d'arrêts, et en tout cas l'Espagne a ses 6 points dans la poche et a vraiment vraiment séduit les observateurs. Alors on va accueillir Pablo Polo, journaliste de Marca, qui est à Leipzig d'ailleurs ce soir pour France Pays-Bas. Salut Pablo.
Salut, bonjour à tous.
On t'a vu
salut,
comment Pablo. On parle bien de l'Espagne quand même, hein, sur RMC.
Salut
Pablo.
Oui, c'est
normal.
On est optimiste parce que c'est normal. Il y a un enthousiasme autour de l'équipe d'Espagne qu'on n'avait pas jamais vu. On n'a pas vu depuis, je pense, 10 ans, 2012, 2013. Parce que c'est vrai, la façon de jouer, les statistiques, à la récupération, tir au but. C'est vrai que je ne dirais pas que l'Espagne a évolué. Je dirais que l'Espagne a changé de style de jeu, pratiquement. C'est vrai. Il y a des autres joueurs, d'autres profils, et il faut profiter. Et je pense que le fait d'avoir des joueurs comme Nico, comme Yamin Lamal, évidemment, Zezon, des joueurs qui, sur les côtés, sont vraiment extraordinaires. Des joueurs avec l'expérience de Rodri, Fabien Ruiz, le joueur de PSG, parce qu'on est vraiment étonné comme il est en train de se ménager à l'Euro, c'est incroyable. Le match qu'il a fait face à l'Italie, c'est extraordinaire, Fabien Ruiz, je dirais, il faut le dire. Alors, on est bien,
oui,
bien
oui, content, c'est bon.
Oui, on est optimiste. Hein, c'est
on
normal.
T'écoute, hein, sans problème. Justement, écoutez Luis de la Fuente qui était vraiment enthousiaste hier sur d'abord les progrès de son équipe, lui qui est arrivé après la Coupe du Monde 2022 de l'Espagne.
Si je dois donner mon sentiment, j'ai dit avant l'Euro qu'il n'y avait pas de meilleure sélection que nous et je pense toujours la même chose. Tant qu'on est irréprochable dans le comportement et qu'on fournit beaucoup de travail, qu'on garde cette humilité et cette envie de grandir et de progresser, on restera l'une des meilleures nations de cet Euro. C'est le plus beau match et le plus complet que j'ai eu à coacher en tant que sélectionneur. Il faut garder les pieds sur terre.
Voilà, on est la meilleure sélection de cet Euro. T'es d'accord avec ça, Kevin?
Non, je ne dirais pas que c'est forcément la meilleure sélection. En tout cas, c'est celle qui pratique le meilleur jeu pour l'instant. C'est-à-dire que de toute façon, les pays comme l'Espagne, ils ne seront jamais perdus pour le foot. Que ce soit l'Espagne, mais aussi le Portugal. Et on a vu l'Allemagne
oui,
qui a
non, réussi ça, à s'inventer. Oui, ça, d'accord. Non, mais non, à la mais Coupe j'ai... du Monde 2022, non, c'était de la possession stérile. Tu vois,
oui, là, mais c'est autre chose qu'on voit. Il y avait un entraîneur qu'un certain DR... n'apprécie pas, c'est pas forcément mon cas, mais en tout cas, il y a quand même une forme de liberté qui se dégage de cette
c'était
équipe.
Luis Enrique, hein.
Et de voilà, je la trouve rafraîchissante cette équipe d'Espagne. Et c'est une équipe qui aujourd'hui, et je parlais du Portugal, de l'Allemagne, parce que c'est des joueurs qui sont ultra techniques quand même. Pour la grande majorité d'entre eux, c'est que des joueurs techniques. Et à partir du moment où là, ils ont eu les petits éléments qui leur a manqué, c'est-à-dire des joueurs de percussion, même si Lamal est encore un peu jeune, c'est quand même un joueur d'ultra talent. Et de l'autre côté, même avec Williams, qui est aussi un joueur avec beaucoup de qualité, qui a fait très mal à l'Italie. Donc, je ne sais pas si c'est la meilleure sélection. En tout cas, c'est l'équipe qui, pour l'instant, est la belle surprise, parce qu'on ne les attendait pas forcément à ce niveau et à cette maturité tactique, notamment dans leur déplacement. Tout est assez bien huilé, c'est fort.
Juste un crochet par Slovaquie-Ukraine, parce que c'est très chaud sur le but slovaque désormais, Arnaud. Hein.
Et le poteau ukrainien signé Timchik après un bon appel de Yarmolenko, qui a voulu combiner dans la surface face à Dovbik, intervention de Skriniar. Et finalement, le ballon revient sur le côté droit de la surface de réparation. Et avec peu d'angle, Timchik qui a frappé fort, croisé, s'est allé heurter la base du poteau. C'est ressorti à 10 minutes de la mi-temps. L'Ukraine pousse, mais c'est la Slovaquie qui mène 1-0.
Je crois qu'il l'effleure, le gardien. Hein. Sinon, ça va ouais. Au fond. Hein. Ouais, je pense. Roland, est-ce que cette équipe d'Espagne t'a impressionné?
Impressionné, disons que je les ai trouvés avec un jeu agréable. Mais bon, j'ai trouvé aussi les Italiens désagréables. Donc, je ne sais pas s'il faut regarder l'équipe d'Espagne qui est très intéressante ou celle d'Italie qui est complètement décevante.
Souviens-toi qu'ils avaient fait la même, les Croates avaient fait la même impression face à l'Espagne, donc à un moment c'est peut-être pas un hasard.
Mais on va voir.
Peut-être l'Espagne qui rend désagréable l'Italie.
Eh oui. Peut-être, mais on va voir parce que l'équipe d'Italie, excusez-moi, je les suis avec beaucoup d'attention depuis de longues années, je pense pas avoir vu une équipe italienne aussi mauvaise que celle d'hier.
Walid.
Non, pour moi, ils ont fait la meilleure performance de l'Euro depuis le début. C'est pour moi l'équipe qui me fait la plus grande impression devant l'Allemagne en deux. Parce que, en fait, si on met le caractère adversité, c'est-à-dire poule de la mort où tu joues Croatie-Italie sur tes deux premiers matchs, que tu fais 6 points en encaissant aucun but, si on nous l'avait dit il y a encore une semaine, je pense que pas beaucoup de personnes ici auraient mis une pièce, dont moi. Mm-hmm. Et puis surtout l'impression visuelle qu'il donne. Le seul bémol, c'est l'efficacité, parce que hier ça doit faire 4 ou 5 sans Donnarumma et sans les poteaux.
Je pense que c'est pas très grave, parce que si tu te souviens de l'équipe d'Espagne à la Coupe du Monde,
oui.
Il n'y avait pas d'occasion.
Oui,
c'est-à-dire ça tournait, ouais. Ça tournait bien,
après,
ça jouait bien,
après,
mais tu n'allais pas dans la surface.
Parce que pour
là,
moi,
les occasions, ils les ont. Il n'y a plus qu'à finir maintenant.
Pour moi, Yamal et Williams changent tout. C'est-à-dire qu'on fait des comparaisons avec Luis Enrique. Nico Williams n'était pas encore Nico Williams quand il l'avait, notamment, et Lamine Yamal n'existait pas. Et en fait, on n'a jamais vu des joueurs de ce profil-là en équipe d'Espagne.
cette mixité là, notamment avec Yamal et Williams.
Des joueurs de percussion.
Oui, non mais puis même de par leur profil athlétique. Yamal est un Marocain, je crois qu'il est Marocain, Guinée équatoriale et espagnol, donc c'est des binationaux. Williams, la même chose, comme son frère, il est ghanéen d'origine. Le fait d'avoir ce type de profil dans une équipe espagnole avec une grande maîtrise au milieu de terrain, une grande intelligence, mais dès qu'il donne le ballon à ses ailiers, il y a de la percussion, il y a du changement de rythme, ça change énormément de choses. Quand Luis Enrique se tapait Oyarzabal en ailier, Dani Olmo, Ferran Torres, qui était encore monorythme par rapport à ce qui se passait avant, moi je trouve qu'il y a une vraie différence. Et c'est ce qu'on voit sur le match contre l'Italie hier. Williams, ce qu'il a fait sur Di Lorenzo pendant toute la rencontre, ça a été un massacre. Donc moi, pour moi, sincèrement, c'est une équipe qui, en termes de compétitivité par rapport à l'adversité, m'a montré les meilleures choses depuis le début.
Dis-moi, Pablo, chez Marca, vous êtes très très au fait des transferts. En Espagne, ce Nico Williams, il va partir à Barcelone ou c'est pas encore fait?
Il y a une clause avantageuse en plus.
Bon, c'était donc qu'il est en train de montrer des choses extraordinaires et ça va être un été chaud pour lui. L'Atlético Bilbao, bien évidemment, qui veut le garder. Et pas seulement Barcelone, attention, la première ligue, parce que la situation économique de Barcelone, c'est pas vraiment extraordinaire. Par contre, pour la première ligue, je suis sûr qu'ils vont taper la porte de l'Atlético Bilbao pour essayer de le prendre. On verra qu'est-ce qui se passe.
Bon, j'ai l'impression que tu es sous des trompes d'eau à Leipzig, non, Pablo?
Maintenant, c'est compliqué parce qu'il peut.
Oui, on entend ça, c'est impressionnant.
Enfin, c'est impressionnant comme il peut. Et je me cache ici dans un parking, bon. Je vais être honnête.
Écoute, juste, dis-nous juste un mot de ce qu'on dit en Espagne de Fabián Ruiz. C'est un joueur qu'on connaît depuis deux saisons au Paris Saint-Germain, qu'on n'a jamais vu à ce niveau-là. Hein. Clairement, tout le monde est assez étonné en France de le voir capable de sortir ces matchs-là.
Non, mais en Espagne aussi, parce que regardez bien, nous on l'a vu les derniers matchs au PSG et au Champions League. C'est vrai qu'il était un joueur qui a bien joué avec Luis Enrique. Mais je dirais que le match hier, c'était vraiment le match de Fabián Ruiz, le match de Nico, c'était vraiment, j'ai jamais vu. Et je pense que ça va être bien pour le PSG parce qu'il est en train de prendre la confiance lui-même aussi. C'est vrai qu'il l'avait déjà, mais le fait de faire cet héros avec l'Espagne, maintenant. On attendait, mais pas à ce niveau vraiment. Hein. Moi honnêtement, je suis bien surpris.
Merci beaucoup Pablo. Pablo Polo, journaliste de Marca, qui est à Leipzig pour France Pays-Bas. C'est ça la radio. On vous a amené la pluie de Leipzig jusque chez vous, jusque dans vos écouteurs ou dans votre poste de radio. Parce que là, on y était, sous la drache.
Ça tombe.
Bon, ça. Alors là, je sais
on
que Roland, tu es le spécialiste de ce genre d'information. Ça peut jouer pour le match, ça. Hein. Si la pelouse est détrempée. C'est pas forcément le même match. Hein.
Ah bah complètement.
On en reparle, on continue de parler de ce France-Pays-Bas. Le point sur Slovaquie-Ukraine avec Arnaud Valadon d'abord, groupe E.
Là, à 5 minutes de la mi-temps, 1-0 pour la Slovaquie, le but d'Ivan Schrantz.
Et puis on va faire le point dans un instant sur les droits télé de la Ligue 1, toujours pas de diffuseur, et une chaîne 100% Ligue 1 qui prend un petit peu d'épaisseur. En tout cas, elle a été présentée aujourd'hui au conseil d'administration de la Ligue. Toutes les infos de Loïc Braillet, tout de suite sur RMC, dans l'Intégrale Euro 2024.
RMC, Intégrale Euro. RMC, Intégrale Euro,
Pierre Dorian.
L'Intégrale Euro 2024 sur RMC cet après-midi. On suit Slovaquie-Ukraine. Les Slovaques mènent 1-0 avec Roland Courbis, Kevin Diaz et Walid Acharchour. On va faire le point sur les droits de télé dans un instant. À 16h, les Bleus peuvent-ils gagner avec un jeu aussi triste? Ils ont été beaucoup interrogés sur ce jeu limité de l'équipe de France cette semaine. On va en débattre avec la Dream Team. D'abord, crochet par le match, le direct, Slovaquie-Ukraine, Arnaud Valadon.
Et un coup franc intéressant pour les Ukrainiens à l'angle de la surface de réparation sur le côté droit, la 42e, 1-0 pour la Slovaquie. Et pendant 20-25 minutes, on avait vu, sur les premières 20-25 minutes, on avait vu les Slovaques être très dominants face à cette équipe ukrainienne, notamment sur le fameux couloir gauche. Et là, messieurs, c'est vraiment Timchik et Yarmolenko qui sont en train, pour le coup, de faire un peu la misère à Aracine et Anko, leur vis-à-vis. C'est ce couloir droit ukrainien qui déclenche avec Yarmolenko, qui a clairement haussé son niveau de jeu. Par contre, c'est Mudryk qui n'est toujours pas autant précis. Il a eu un super ballon sur le côté gauche. Il s'amène très bien avec un contrôle de la tête et il tergiverse trop au moment de remettre ce ballon dans l'axe. Il était près du premier poteau. C'était une très bonne sortie de Dubravka, le gardien slovaque, qui répond présent. Mais ce coup franc pour les Ukrainiens, la 42e, 1-0 pour le...
C'est un peu mieux l'Ukraine, hein.
Ouais, clairement. Clairement, techniquement, dans l'animation, dans la vitesse. Ce coup franc à l'angle de la surface de réparation sur le côté droit. Il y a Mudryk qui est présent. Il y a aussi Zinchenko. Ça part très fort. C'est boxé au premier poteau par Dubravka. C'est pas terminé peut-être pour les Ukrainiens avec le ballon qui est conservé. Finalement, ce sera une sortie de but. Toujours 1-0 pour la Slovaquie.
1-0 pour la Slovaquie. On retrouve Loïc Braillet, notre spécialiste des droits de télé. Salut Loïc.
Ouais, salut Pierrot.
Alors, ce qui est clair, c'est que ce feuilleton interminable commence à inquiéter tous les acteurs du football français, à commencer par les présidents qui ne savent pas combien d'argent ils vont toucher cette saison pour leur budget au nom, au titre des droits télévision. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y avait un conseil d'administration de la Ligue et que la Ligue n'en démord pas. Il y a un plan B qui prend de l'épaisseur, celui d'une chaîne 100% Ligue 1. Le DG de la Ligue, Benjamin Morel, a donné les détails, bon, qu'on connaissait pour la plupart, de ce projet, Loïc.
Oui, en tout cas, ce qui est clair, c'est que ce projet avance. Et d'ailleurs, Vincent Labrune a été très, très clair devant les présidents de club en leur disant que ce soit en interne au sein de la Ligue ou avec un partenaire comme Bein, par exemple, cette chaîne va voir le jour. Donc, 100% des matchs sur cette même chaîne. Une diffusion linéaire du vendredi 19h au dimanche minuit, plus un tas de contenu en VOD à dispo sur une plateforme digitale spéciale Ligue 1 qui est en cours de création au niveau technique, histoire que les fans puissent aussi continuer à consommer de la Ligue 1 entre deux week-ends de matchs, bien sûr. Une distribution la plus large possible, donc sur toutes les box, sur tous les fournisseurs d'accès Internet, SFR, Orange, Bouygues et Free, bien sûr, Molotov, Google TV et peut-être d'autres encore, mais aussi Canal+, seul acteur avec qui la Ligue ne discute pas encore de distribution, mais elle n'imagine pas une seule seconde que cette chaîne ne soit pas distribuée par Canal.
Dis-moi juste un truc, quand il nous dit « quoi qu'il arrive, la chaîne verra le jour », sauf si on trouve un accord avec un diffuseur.
Je reprends les termes, en tout cas les infos qu'on a eues, de ce qu'a dit Vincent Labrune devant les présidents. Donc la chaîne est quand même très très bien partie au niveau technique. Il y a déjà eu des investissements d'ailleurs qui ont été faits de la part de la Ligue. Okay. Donc aujourd'hui, l'énorme tendance, c'est que cette chaîne voit le jour. On ne s'interdit pas à ce qu'il y ait un accord de dernière minute, alors vraiment ultime seconde même, hein, avec un Canal, avec un Bein ou avec un autre, mais c'est clairement pas la tendance aujourd'hui.
Mais alors le donc, prix ce serait 25 € par mois, c'est ça, hein, pour
sur
accéder à tous les matchs.
Sur 10 mois, alors 25 € hors
mais
taxe.
Mais est-ce qu'en plus il y aurait des contrats de diffusion payants avec les plateformes?
Alors,
pour distribuer cette chaîne.
Il a dit 25 € hors taxe.
Oui, normalement, alors ça reste à confirmer, je suis un peu prudent sur cet aspect-là, mais a priori, on parle de hors-taxe pour les 25 € sur 10 mois. Voilà, ça sera peut-être un petit peu plus au final pour le consommateur, mais il n'y a pas encore de prix qui a été définitivement acté.
Mais là, on parle de 300 € pour voir la Ligue 1 à la télé, que la Ligue 1.
Oui, on parle de
alors
ça.
Alors qu'à l'époque, il y avait quand même Mediapro qui avait 25 €, je crois, et qui avait par contre la Ligue des Champions et l'Europa League en plus.
La différence, Kevin, c'est que là, on parle, en tout cas, je parle des arguments de la Ligue, hein, qui sont mis en avant. On parle là de tous les matchs qui seraient réunis à un seul endroit, ce qui n'était jamais arrivé même à l'époque de Mediapro, qui n'avait que 80%, et surtout une chaîne distribuée absolument partout, ce qui n'était pas le cas non plus de Mediapro, puisqu'il n'y avait pas eu d'accord avec Canal. Ça, c'est l'argument mis en avant par la Ligue.
Encore faut-il trouver un accord avec les diffuseurs.
On est d'accord, les discussions sont en cours. Objectif d'abonnés, un peu plus de 2 millions la première année, avec un espoir de monter à 3,3 millions en année 5 du cycle qui s'ouvre, un cycle de 5 ans, et donc une augmentation régulière du parc d'abonnés. Au niveau des revenus, en moyenne par an sur les 5 prochaines années, 714 millions d'euros bruts, soit 578 nets pour les clubs.
J'ai l'impression qu'on a perdu Loïc. De toute façon, je pense qu'on était arrivé au bout des informations qu'il avait à nous donner. Ça ne sent pas très bon cette histoire.
On l'a perdu comme on l'a perdu.
Vincent Labrune. Voilà. Bon, après, il y a un truc que je comprends pas. Si jamais ça voit le jour, et même en considérant qu'ils atteignent leurs objectifs en nombre d'abonnements, ce qui semble quand même assez improbable, c'est comment tu rémunères les clubs, puisque l'argent n'arrivera qu'en cours de saison.
Exactement.
Ça veut dire que tu démarres à zéro en fait. L'argent arrivera au fur et à mesure. Tu n'auras pas une première tranche
sans garantie.
Bah oui, et sans garantie.
C'est pareil.
Ouais,
après.
C'est un peu inquiétant.
Il y a quand même les moyens de production après. Parce que on parle de problème, OK, il y a 30 euros et puis on va multiplier par tant d'abonnés et du coup, il y aura tant d'argent. Mais les matchs, il faut les produire, il faut payer les consultants, il faut payer les journalistes. Il y a plein de gens. Enfin, je sais pas, mais c'est
quand même. Merci Loïc Braillet. En tout cas, c'était un point important aujourd'hui, ce conseil d'administration de la Ligue de football professionnel. La mi-temps vient d'être sifflée entre la Slovaquie et l'Ukraine. Le score n'a pas bougé malgré de grosses occasions en fin de mi-temps. Arnaud Valadon.
Oui, 1-0 pour la Slovaquie qui a profité de son bon début de match avec l'ouverture du score à la 17e de chance. Mais ensuite, les Ukrainiens ont réagi. Les Slovaques peuvent dire merci à leur gardien, Martin Dubravka, qui a notamment dévié un tir sur le poteau qui s'est montré décisif. La Slovaquie qui donc mène 1-0 à la pause.
Merci Arnaud. On revient très vite pour la mi-temps. On parie sur cette rencontre. Le coup d'envoi après les infos donc de 16h de ce Slovaquie-Ukraine pour la deuxième mi-temps. Et le deuxième débat sur les Bleus, l'équipe de France peut-elle gagner avec un jeu aussi triste? À tout de suite, 32-16.
RMC Intégral Euro.
Pierre Dorian.
Vous êtes sur RMC, c'est l'Intégral Euro 2024 avec Roland Courbis, Kevin Diaz et Walid Acharchour. C'est la mi-temps entre la Slovaquie et l'Ukraine. Il y a 1-0 pour la Slovaquie. On va parier dans un instant sur cette rencontre. Juste le temps de vous dire que lundi, vous retrouvez Vincent Moscato et toute l'équipe pour le Moscato Show de 15h à 18h. Et ça va durer toute la semaine pendant l'Euro. Le Moscato Show est bien là. Les paris, c'est parti.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Alors ça, c'est des matchs sympas à parier, Roland, parce qu'il se passe plein de choses. C'est un match ouvert. Ça peut revenir du côté de l'Ukraine, ça peut marquer le deuxième côté slovaque. Et je pense que les cotes doivent être intéressantes, Christophe Payet.
1,56 la victoire de la Slovaquie, c'est logique. Elle mène 3,50 le match nul, 6 l'Ukraine. Une équipe slovaque a bien dominé, mais sur le dernier quart d'heure, on a vu quand même que les Ukrainiens s'étaient créés beaucoup d'occasions. Donc je vous propose un my match. La Slovaquie ne perd pas, mais Dovbyk ou Yarmolenko pour l'Ukraine marque ses cotés à 3,80. Dovbyk tout seul, 4-10. Yarmolenko tout seul, 5-10.
Ok. Et si tu fais... J'ai peur qu'un des deux sorte très tôt dans la rencontre, moi.
Parce qu'il n'est pas satisfaisant en première période.
Non, Yarmolenko, sur la fin de première mi-temps, c'était l'un des plus dangereux. Mais vu les changements qu'il y a sur le front d'attaque, un Tsigankov peut rentrer. Donc, sur la double chance buteur, j'ai un peu peur, moi, de les jouer.
Deux résultats tout simples. Le 1 partout ou le 2-1 pour l'Ukraine?
Alors, le 1 partout, 4-10. Le 2-1 pour l'Ukraine, c'est coté à 8.
Donc si tu fais un multi 2, ça doit faire du 3,50.
Le 1 partout ou 2-0 Slovaquie?
Alors le 1 partout le KO, ou le 2-0, oui, au cas où les Slovaques marqueraient en contre, c'est ce que je veux dire, KO, évidemment. Ouais. Ça te fait une cote à 2,60.
Ouais, c'est pas mal ça.
Allez, moi je vais te demander, puisqu'on a encore une minute, Slovaquie et les deux équipes marquent, est-ce que tu peux le jouer à la mi-temps ça?
C'est dur ça.
Bah vraiment, les deux mettent un but.
Marquent.
Un petit 2-1, 3-1, 3-2.
T'es dur, toi, la mi-temps.
Si l'Ukraine égalise, la Slovaquie, derrière, tu les vois gagner?
Là, dans ce match, dans ce match,
un 2-0 Slovaquie et 2-1 Ukraine.
Tu peux avoir 3 buts en deuxième période et je peux pas te dire qui va l'emporter.
Tu m'as dit Slovaquie et les deux équipes marquent, c'est coté à 4.
Kevin, t'as une petite inspiration?
Ça rejoint ce que j'ai proposé, d'ailleurs.
Moi, je verrais bien le match nul, un but partout.
Et le match nul, un but partout, c'est 4,10.
Sur les buteurs? Vous avez une inspiration?
Ouais, Dovbyk, moi je pense que Dovbyk, à un moment donné, il va marquer quand même.
Bon, c'est possible. Il nous a quand même montré ses qualités dans cette première mi-temps.
C'est l'un des plus dangereux dans la
Après, l'Ukraine est étonnante parce qu'ils ont des vraies qualités en attaque, mais c'est une équipe qui tourne par rond. C'est une équipe qui n'est pas bien organisée.
Après, c'est aussi peut-être une deuxième mi-temps pour Mudryk. Il est tellement horrible sur la première mi-temps que peut-être qu'il va se réveiller.
C'est lui qui sort.
Ouais, aussi.
Merci Christophe.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Dans un instant, les infos, le coup d'envoi de la deuxième mi-temps de ce Slovaquie-Ukraine dans le groupe E. Je vous rappelle que tout à l'heure, l'équipe de France joue à 21h son deuxième match face aux Pays-Bas. Les Bleus peuvent-ils gagner avec un jeu aussi triste? Venez débattre du jeu de l'équipe de France avec Roland Courbis et avec le reste de la Dream Team au 32-16 dans quelques minutes sur RMC.
RMC,
Intégral Euro.